السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل dit dans le Coran: si vous énumérez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Allah nous dit dans le Coran que si on médite et on réfléchit sur tous les bienfaits qu'il nous a donnés, alors on ne pourra même pas se rendre compte de tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Hein? Et par conséquent, alors il est bien de se rappeler que Allah nous a créés et qu'il nous a donné beaucoup de bienfaits, le bienfait de la vie, le bienfait de pouvoir parler, de pouvoir voir, de pouvoir marcher, de jouir de tout ce que Allah a mis pour nous sur terre, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, le bienfait de la religion, hein, tous les bienfaits. Et tout le monde profite de ces bienfaits, même ceux qui ne sont pas croyants, ils profitent des bienfaits d'Allah, hein, de la nuit, du jour, du soleil, de la pluie. Et si l'on médite, par exemple, on prendrait juste la vie, la vue, pardon, et je dirais à quelqu'un, je te donne 30 000 euros et je te reprends le bienfait de la vue qu'Allah t'a donné, il ne voudrait pas. Hein? La vue, par exemple, c'est un bienfait qu'Allah nous a donné qui n'a pas de prix. Hein? Le fait de pouvoir raisonner, par exemple. Je te dis, voilà, je te donne 1 million d'euros, mais je te reprends ta raison, tu vas devenir fou. Personne ne voudra. Ça n'a pas de prix. Hein? Donc tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, si on médite comme ça, eh bien, on va s'apercevoir qu'en fait, Allah nous a donné beaucoup de bonnes choses et que nous, parfois, on oublie presque de le remercier. Hein? Et parmi les bienfaits qu'Allah nous a donnés, il y a le bienfait de pouvoir s'exprimer, hein, de pouvoir parler. Ça, c'est un grand bienfait. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allah il dit dans le Coran, le tout miséricordieux qui a enseigné le Coran a créé l'homme et lui a donné le moyen de s'exprimer clairement. D'accord ? Dans Surat Al-Balad, par exemple, Allah nous dit « Alam naja'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn » Et Allah il dit dans le Coran, il parle de l'homme, il dit « Ne lui avons-nous pas donné deux yeux à travers lesquels il peut voir, et ne lui avons pas donné la lèvre, les lèvres et la langue, hein, avec lesquelles il peut parler et s'exprimer. » Donc ça, la langue, le fait de pouvoir parler, c'est un grand bienfait qu'Allah nous a donné. Et comme tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, bien sûr, il faut le remercier. Et le remercier, ben, c'est de l'invoquer et de lui dire Alhamdulillah wa shukrulillah et de faire des invocations. Mais aussi, le meilleur moyen de le remercier, c'est quoi? C'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a donnés de la bonne manière. Hein? Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah wa qulu qawlan sadida. Allah dit dans le Coran, ô ceux qui croyaient, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite du verset ? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Donc Allah dit dans ce verset, ô ceux qui croyaient, craignez Allah. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne parlez qu'avec droiture. Et donc on voit qu'ici, le bienfait que Allah nous a donné de pouvoir nous exprimer, c'est pas pour faire n'importe quoi ou pour dire n'importe quoi, mais c'est justement pour l'utiliser correctement. Et l'utiliser correctement, c'est parler avec droiture. Et on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça signifie. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous dit, parler avec droiture, ainsi Allah il va vous améliorer vos actions. Il va vous pardonner vos péchés. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Quiconque obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une grande réussite. Donc ce verset-là, il est important, il faut le méditer. Parce que je vous pose la question, celui qui ne parlerait pas avec droiture, est-ce que Allah va lui améliorer ses actions et est-ce que Allah va lui pardonner ses péchés? À votre avis? Personne n'a d'avis? Ça veut dire plein de choses et je vais les détailler après. Mais par exemple, celui qui ment, est-ce qu'il parle avec droiture selon toi? Bien évidemment, non. Donc est-ce que celui qui, lorsqu'il parle, il ment et qui donc parle pas avec droiture? Est-ce qu'Allah, il va lui améliorer ses actions? Est-ce qu'il va lui pardonner ses péchés? Est-ce qu'il va, en cela, il obéit à Allah et à son messager? Est-ce qu'il a réussi? Non. Donc on voit ici quelque chose de très important, que donc ce que tu fais, ce qui sort de ta bouche, ça a une influence sur ce que tu fais. Par exemple, si tu parles, tu mens, tu pries, ça se trouve le fait que tu parles et que tu mens et que tu sors du poison de ta bouche, ça se trouve que tout ce que tu fais comme prière, et tout, etc., ça part en fumée. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Toujours pour appuyer cette idée-là, regardez le Coran, le Coran. C'est un grand bienfait, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit le prophète sur le Coran. Le Coran, hujjatul laka aw alayka. Le prophète, il dit, le Coran, donc c'est un bienfait, comme tous les bienfaits qu'Allah te donne, il te dit, c'est une preuve pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi que si tu suis ce qu'il y a dans le Coran, alors le Coran, il va te guider vers le droit chemin, il va te guider vers le paradis. Et il va te guider vers les bonnes choses. Or, si tu ne suis pas le Coran, les arguments qu'il y a dedans, ils sont contre toi, et donc il va te pousser vers l'enfer. Hein? Donc les bienfaits qu'Allah il nous donne, il faut le remercier, mais le meilleur moyen de le remercier, c'est quoi? C'est de les utiliser correctement. D'accord? Donc nous aujourd'hui, on va parler de la langue, et on va se rendre compte que la langue, si on ne fait pas attention, c'est un grand danger pour l'être humain. C'est un grand danger pour le croyant. Et donc moi aujourd'hui, le premier hadith que j'ai envie de vous citer, c'est un long hadith dans lequel Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il est parti voir le prophète et il lui a dit « Qultu ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni 'anil nar. » Il est parti voir ce grand compagnon, Mu'ad ibn Jabal, il est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Informe-moi d'une action qui me fera entrer au paradis et qui me préservera de l'enfer. » D'accord? Et Mu'ad ibn Jabal, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les compagnons, c'est un savant. Il est connu parmi les compagnons comme étant quelqu'un qui avait du ilm. Hein? Et on va le voir. Pourquoi? Parce que ce hadith-là, par exemple, des fois, il est rapporté des hadiths où c'est un bédouin qui vient voir le prophète et qui lui dit, fais-moi des recommandations. Et comme le prophète, il sait que c'est un bédouin et qu'il n'a peut-être pas forcément de science, il lui fait une recommandation. Mais simple, par exemple, il dit « Qultu amantu billah thumma istaqim ». Et par miséricorde, le prophète, alayhi salam, il s'adapte à celui qu'il a en face de lui. Quand c'est un bédouin qui n'a pas forcément de science, qui n'est pas forcément lettré, qui n'est pas forcément habitué des sciences religieuses, il lui fait une recommandation simple. Dis « Je crois en Allah » et agis avec droiture. Voilà. S'il retient que ça, ben, il a retenu beaucoup de choses. D'accord? Et c'est simple à retenir. Mais là, comme c'est Mu'ad ibn Jabal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il va lui dire, il va développer. D'accord? Pourquoi il développe? Parce qu'il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est savant et qui comprend les choses. Et donc il va lui donner pas mal de détails. Donc c'est pour ça que je cite ce hadith et on verra à la fin qu'il colle à notre sujet du jour. Donc dans ce hadith-là où Mu'ad ibn Jabal il est venu voir le prophète et lui a dit indique-moi des choses, une chose qui me fera rentrer au paradis et qui me préservera de l'enfer, on voit tout de suite la science de ce compagnon. Car il lui a demandé deux choses. Il aurait pu lui demander indique-moi une chose qui me fera rentrer au paradis. Mais comme c'est un savant, et qui sait que le jour du jugement dernier, il y a des gens qui rentreront au paradis, mais qui avant passeront par l'enfer, lui, il a connaissance de cela, donc il lui a pas dit simplement indique-moi une chose qui me fera rentrer au paradis, mais il lui a dit indique-moi une chose qui me fera rentrer au paradis, et qui me préservera de l'enfer. Donc on voit tout de suite que cette personne-là, Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui est intelligent. D'accord? Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répondre. Il va lui dire, لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ. Tu as demandé sur une chose grandiose. وَإِنَّهُ لَيَسِرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Il a dit, mais c'est une chose facile pour qui Allah l'a rendue facile. Et donc il va lui dire, le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, تَعْبُدُ اللَّهُ ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان وتحج البيت. Et donc il va lui dire, le prophète, il va lui citer les cinq piliers de l'islam. Il va lui dire, tu adores Allah sans rien lui associer. Et donc ça c'est la ilaha illallah. Il va lui dire, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le mois du ramadan et tu fais le hajj. Donc ça c'est quoi là? Les cinq piliers de l'islam. D'accord? Et ensuite, le prophète, il va lui dire, Ala adulluka ala abwab al-khair, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Et le compagnon, bien sûr, il va lui dire oui. Et il va lui dire, Soumun junnatun, wa sadaqatu tutfi'u al-khatayata kama yutfi'u al-ma'u al-nar, wa salatu rajul fi jawfi al-layli, thumma tala tatajafa junubuhum al-mawaji' hatta bala'a ya'malun, hatta bala'a ya'malun. Et donc le prophète, alayhi wa salam, il va lui dire, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le compagnon va dire, oui, bien sûr, il va lui dire, le jeûne, c'est un rempart, c'est une protection, le jeûne. Et il va lui dire, les l'aumône, c'est-à-dire les sadaqas, les choses que tu donnes, qui s'habilillent ça éteint, ça efface les erreurs et les péchés, comme l'eau éteint le feu. D'accord? Donc il va lui indiquer les bienfaits de ce que la personne, de ce que nous on appelle les sadaqas. Et ensuite, il va lui dire la prière de la nuit. Et donc, il va lui dire la prière de la nuit. Et là, il va réciter un verset coranique dans lequel Allah, il dit, ceux qui s'arrachent de leur lit la nuit, parce qu'on sait que se lever la nuit à 3h du matin pour prier, c'est dur. Quand tu es en train de dormir et que tu dors d'un sommeil lourd, et que tu vas te réveiller à 3h du matin pour prier, c'est quelque chose de dur. Et celui qui fait ça, c'est littéralement, il s'arrache de son lit. Hein? Parce que c'est dur à ce moment-là de se lever. Et donc il dit Allah, et donc le prophète A.S. il va dire un compagnon, et donc la prière de la nuit, les portes du bien, donc le jeûne, le fait de donner en aumône, et la prière de la nuit. Et là, il va lui, pour lui démontrer les bienfaits de la prière de la nuit, il va réciter un verset coranique, dans lequel il dit, ceux qui détachent leur flanc de leur lit, pour invoquer leur Seigneur, dans la crainte et dans l'espoir, et sur notre attribution font dépense, nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils pratiquaient. Donc, il lui a dit les cinq piliers de l'islam, ensuite il lui a parlé de quoi? Du jeûne, des sadaqat et de la prière de la nuit. Donc qui sont des actes surérogatoires. Il lui a parlé des sadaqat que tu fais qui ne sont pas obligatoires, il les a encouragés. Il a parlé du jeûne surérogatoire et il a parlé de la prière de la nuit qui est surérogatoire elle aussi. Donc ça, tout ça, c'est les portes du bien. Ensuite, le prophète, alayhi salam, toujours dans ce même hadith, il va dire à ce compagnon, Ala ukhbiruka bi rasil amr wa umudihi wa dirwati sanami. Qultu bala ya Rasulallah, qala rasul amr al-islam wa umuduhu salat wa dirwatu sanami al-jihad. Donc ensuite, le prophète, il va lui dire, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son squelette et son sommet? Alors, le compagnon va dire, bien sûr que oui, ou envoyé de Dieu. Et il va lui dire, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Son squelette, c'est la prière. Et son sommet, c'est le djihad. D'accord? Et ensuite, et c'est là qu'on rentre dans notre sujet, et donc je vous montre d'être très attentif, le prophète va lui dire, « Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullu » Il a dit, veux-tu que je t'indique la chose essentielle dans tout ce que je viens de te dire? C'est-à-dire, je t'ai parlé de l'islam, du jeûne surérogatoire, de l'aumône, des sadaqat surérogatoires, de la prière de la nuit, de l'islam, de la prière, du djihad. Il a dit, maintenant, est-ce que tu veux que je te dise une chose qui est essentielle dans toute cette chose-là? Et le compagnon, bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Il veut dire, bien sûr, au messager d'Allah. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va prendre sa langue, il va la prendre comme ça. Et qu'est-ce qu'il va dire au compagnon? Il va lui dire, Kuffa alayka hada. Il va lui dire, retiens celle-ci. Et là, le compagnon, il va dire, Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bih. Il a dit, est-ce qu'on va être pris sur est-ce qu'on va être jugé sur ce qui sort de nos bouches? Et là, le prophète, il va lui dire, Faqal, un Nabi alayhi salam, فكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Et donc là le prophète il va lui dire, est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage si ce n'est à cause de ce que leurs langues ont proféré? Et donc là le prophète il va lui dire, est-ce que les gens ils vont être jetés en enfer pour autre chose à cause de ce qui est sorti de leur bouche? Donc regardez, méditez ce hadith mes frères. Il est très important. Quelqu'un vient voir le prophète, en résumé, et lui dit, indique-moi une chose qui me fera entrer au paradis et qui me préservera de l'enfer. Et regardez le prophète. Il lui dit l'islam, les cinq piliers de l'islam. hein, d'adorer Allah sans rien lui associer, de faire la prière, de verser la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, de faire le hajj. Donc il parle des choses qui sont obligatoires. Ensuite, il lui dit, est-ce que tu veux que je t'indique les portes du bien qui te permettront d'aller vers le paradis? Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire donc, les jeûnes surérogatoires, c'est un bouclier, ça te protège des passions, hein, et des mauvais désirs. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tout ce que tu donnes en sadaqat, ça efface tes péchés, et la prière de la nuit. Hein, regardez tout ce bien-là. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit après? Il lui dit donc, la tête de l'affaire, son squelette, son sommet, hein, donc l'islam, la prière, le djihad. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il lui dit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, fais attention à ta langue. Parce que si tu ne fais pas attention à ta langue, alors tout ce que tu fais, ça se trouve, ça va partir en fumée. Et rappelez-vous le verset que j'ai cité au début, « Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa qulu qawlan sadida. » Ô ceux qui croyaient, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture. « Yuslih lakum a'malakum. » Et là maintenant, vous comprenez avec le hadith que si tu ne parles pas avec droiture, est-ce que tes œuvres elles vont être est-ce que Allah il va accepter tes œuvres, il va les améliorer? Non. Donc on voit que la langue c'est un danger. Alors, toujours pour montrer le danger de la langue, le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith, inna al-'abda la yatakallamu bi kalimat ma yatabayyanu fiha يزل فيها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Dans un hadith authentique, le prophète عليه الصلاة والسلام il nous dit, l'adorateur prononce une parole à travers laquelle, pour lui, il ressent ni si c'est un bien ni si c'est un mal. Il sort une parole qui sort de sa bouche comme ça. Et il lui dit, avec cette parole, Allah il le prend et il le jette en enfer, d'une distance qui est aussi éloignée que l'Orient et l'Occident. Ça veut dire qu'il le jette profondément en enfer. Allahu Akbar. Ce hadith, il fait froid dans le dos. Une parole que tu prononces, à travers laquelle tu n'as pas fait attention, toi, tu t'es même pas rendu compte si elle était bien ou elle n'était pas bien, et cette parole, elle a provoqué la colère d'Allah, et Allah, il t'a pris et il t'a balancé en enfer d'une distance aussi loin qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Allahu Akbar. Hein? C'est rien que ce hadith-là, il nous montre que cette chose-là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc la langue, c'est dangereux, puisque juste une seule parole, et c'est facile de prononcer une parole, un mouvement de la langue, et il y a une parole qui sort. Et ça t'envoie en enfer, aussi loin que ce qui sépare l'Orient et l'Occident. Dans un autre hadith, qui nous prouve toujours les dangers de la langue, un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam il nous dit la tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah inna kathrat al-kalam bi ghayri dhikrillah tuqass al-qalb wa inna ab'ad an-nas min Allah al-qalb al-qasi. Le prophète alayhi salatu wa salam il nous dit, n'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah, car l'abondance des paroles où l'on n'évoque pas Allah durcit le cœur. Et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. Hein? Le prophète alayhi sallam nous dit, n'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah, car l'abondance des paroles où l'on n'évoque pas Allah durcit le cœur. Et les gens qui sont les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. Et donc là, de ce hadith-là, on déduit que la langue, même si elle est utilisée dans le halal, elle peut être un mal pour la personne. Puisque, on sait tous que, effectivement, celui qui, dans ses paroles, il évoque Allah, il est récompensé. Maintenant, dans la vie, tu peux parler des choses sans évoquer Allah et tu ne commets pas un péché. Mais le problème, c'est que quand ça devient abondant chez toi, à savoir, par exemple, on le voit aujourd'hui, les gens qui ne parlent que de football. Dès que tu leur parles de football, ils pourraient parler du matin jusqu'au soir que de football. Ou alors les voitures. Moi, je travaille avec des gens, dès le matin, j'arrive, je les vois, ils parlent de voitures. Les voitures, il n'y a que ça qui les intéresse. Hein? Et même moi, j'ai vu de mes propres yeux, dans certaines mosquées, quand c'est l'été comme ça, entre le Maghreb et l'Isha, où le Isha, il se prie tard, donc c'est des gens qui prient, c'est quand même des gens, machallah, qui vont à la mosquée, ils rentrent à la mosquée, ils font le Maghreb, il sort dehors, et avec ses copains, il va parler de la Ligue des Champions, jusqu'à ce qu'il entende l'Iqama de l'Isha, et il rentre à la mosquée pour faire l'Isha. Voilà l'exemple de gens qui abusent des paroles, qui sont des... Il n'y a pas de mal à parler de la Ligue des Champions, mais quand ça devient comme ça une obsession, et que ta langue, elle ne sait parler que de ça, et lorsqu'on va te dire, viens, on va s'asseoir, on va ouvrir un livre, on va parler de la vie du prophète, ou de quelques hadiths, ou de ce qu'on a dit dans le Coran, c'est lourd pour eux, c'est dur. Pourquoi ? Parce que justement, ils se sont durcis le cœur avec les paroles sur Dunia. Les paroles sur Dunia, elles sont autorisées, mais à chaque chose, il convient de lui donner sa place. Hein ? Si tu commences à être préoccupé que de ça, et tu ne parles que de ça, ça durcit ton cœur, et forcément, ça va être des voies par lesquelles tu vas t'éloigner de la religion. Donc, regardez mes frères, la langue, c'est un danger, car même si tu l'utilises dans le halal, si tu exagères, ça peut te mener vers une voie dangereuse. Oh, je reviendrai à la fin si tu veux, d'accord ? Donc, dans un autre hadith, toujours pour montrer le danger de la langue, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man yadmanu li ma bayna lihya wa ma bayna rajlay adman lahu al-jannah » Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit « Celui qui me garantit ce qu'il a entre sa barbe, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses jambes, à savoir son sexe, je lui garantis le paradis. » D'accord ? Ça veut dire que si le croyant est capable de garantir qu'il ne sortira pas de bêtises de sa bouche et qu'il ne commettra pas ni l'adultère ni la fornication, alors Allah il lui garantit le paradis. Alors, j'ai une question. À votre avis, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a réuni la langue et le sexe ? Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Là, j'entends quelqu'un qui murmure quelque chose par là. Non, c'est pas ça. Non. Pourquoi ? Et il y a quelque chose de subtil à comprendre, c'est que le sexe, il a le désir sexuel, d'accord, qui te pousse, et la langue aussi. Hein ? L'être humain, il est fait avec une langue et il aime parler. Hein ? Et ta langue, elle va te pousser à parler comme ça. Hein, il y a le désir de parler. Tu vois même des gens, des fois, si tu vas leur parler, on va parler sur des gens, c'est délicieux pour eux. C'est quelque chose, ils aiment bien ça. C'est hlou. Hein? Pourquoi ? Parce qu'il y a ce désir-là. Hein? Et donc, c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a ramené les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? On dit que la langue, c'est un danger pour l'homme et que tu as besoin de t'éduquer. Et regardez ce qu'il a dit le prophète quand il a pris sa langue. Il lui a dit koufou. Et koufou, c'est vraiment, c'est retiens, mets un frein. Parce que tu as besoin de faire ça, ça mérite un effort de la part de l'être humain que de maîtriser sa langue. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, il dit, je suis étonné de voir des gens qui n'ont pas de mal à délaisser zina, la fornication, qui n'ont pas de mal à délaisser l'alcool, les jeux de hasard, qui font les cinq prières, qui sont des gens pieux, mais qui éprouvent les plus grandes difficultés à maîtriser leur langue. Hein? C'est donc, ça veut dire que de ce hadith-là, on déduit quoi ? Que l'homme, il a besoin de s'éduquer avec cette langue. Hein ? Que même des fois, si tu sais que la médisance ou etc., c'est pas bien, mais t'es poussé, t'es entraîné. Donc ça veut dire que ça demande un effort. Et ça prouve encore le danger de la langue. Toujours pour montrer la gravité de la langue, c'est qu'il faut bien savoir, mes frères, que quelqu'un qui est pieux et qui ferait la prière et des choses comme ça, s'il parle sur les gens, et bien, toutes les prières qu'il fait, il en garde les bénéfices, mais les prières qu'il fait, en aucun cas, elles vont annuler les paroles qu'il a dites sur les gens. Et le jour du jugement dernier, il aura des comptes à rendre sur ça. Donc, par exemple, la langue, ce que tu sèmes avec ta langue, notamment les paroles sur les gens, d'accord ? Et bien, ça reste sur la balance des mauvaises actions. Et le jour du jugement dernier, tu auras des comptes à rendre. Et à titre d'exemple, je vous cite la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il dit, dans laquelle il dit à ses compagnons, Atadroun man al-muflis fikum. Il a dit, connaissez-vous qui est celui qui a fait faillite chez vous ? Et les compagnons, ils ont dit, Qalu man la dirham indahu wa la mata'. Ils ont dit, c'est celui qui n'a pas de bien ni d'argent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit non. Il a dit, al-muflis fikum, من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. Il a dit le celui qui a fait faillite chez vous, c'est celui qui va venir le jour du jugement dernier avec des bonnes actions aussi grandes que des montagnes. Ça veut dire qu'il aura fait beaucoup de salat, beaucoup de zakat, il aura fait le hajj, il aura fait beaucoup de bonnes actions. فيأتي, et donc il viendra, mais le problème c'est quoi? C'est وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا فَيَأْخَذَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ حَسَنَتِهِ شَيْءٍ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ سَيِّئَتِهِ وَطَرَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي النَّارِ. Et donc il a dit, il va venir le jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat. Mais le problème c'est que quoi? Il a parlé sur un tel, il a été injuste envers un tel, il a insulté un tel, il a pris l'argent de celui-là, et donc forcément le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il va lui dire à Allah? Il va lui dire, moi, je te pardonne tes péchés, maintenant va régler tes comptes avec les gens. Et donc il va venir avec ses hasanat, et les gens ils vont se servir. Ah, tu te rappelles, t'as parlé sur moi, t'as été injuste envers moi, t'as été, etc. Jusqu'à ce que cette personne-là, elle n'a plus de hasanat. Mais il y a encore des gens qui viennent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, eh ben, prenez vos péchés et donnez-lui vos péchés. Et les gens vont vous donner ses péchés jusqu'à ce qu'il va rentrer en enfer. Wal'iyadu billah. Donc, on voit dans ce hadith-là qu'il faut faire attention à la langue. Parce que même si tu fais partie des gens qui, alhamdoulilah, vont à la mosquée et qui yani, pratiquent les obligations religieuses, si tu ne maîtrises pas ta langue, alors c'est comptabilisé. Et n'oubliez pas que Allah nous dit dans le Coran, مَا يَلْفِدُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il a dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il ne prononce pas une parole, à savoir l'être humain, sans qu'il ait auprès de lui un scribe prêt à l'inscrire. Ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est enregistré. Tout ce que tu dis, c'est enregistré. Donc, ce n'est pas des questions qui sont à prendre à la légère. Et d'ailleurs, ceux qui sont nos exemples, comme le prophète, bien sûr, mais les compagnons du prophète, hein, et les premières générations de musulmans, regardez eux comment, je vais citer quelques récits, regardez eux comment ils avaient compris ce danger-là. Par exemple, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, donc qui est celui qui a été le chef des musulmans après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, le premier calife des musulmans, hein, qui est connu pour sa piété, les gens l'ont vu, ils mettaient des cailloux dans sa bouche. Et ils ont dit, pourquoi tu mets des cailloux, ya Abu Bakr? Il a dit, car c'est celle-ci qui m'amène vers les mauvaises routes. Donc lui, pour s'entraîner à essayer de maîtriser sa langue, il mettait des cailloux dans sa bouche. Alors, attention, je ne vous dis pas de mettre des cailloux dans votre bouche. Mais ce qui nous est intéressant ici, c'est de comprendre que voilà un homme pieux, et personne au jour d'aujourd'hui peut prétendre avoir autant de science et de piété que Abu Bakr. Et regardez lui, comment il avait compris le danger de la langue. Il avait compris que c'était grave. Et comment les efforts qu'il faisait pour la maîtriser. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, la langue est l'organe qui mérite le plus d'être emprisonné, malgré le fait qu'elle est déjà derrière deux prisons, la langue, les dents et les lèvres. Hein? Abdullah ibn Mas'ud, qui parmi les sahaba, c'est pareil, quelqu'un qui avait beaucoup de science, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la langue est l'organe qui mérite le plus d'être emprisonné, malgré le fait qu'elle est déjà derrière deux prisons, les lèvres et les dents. Alors regardez, ces gens-là, ils avaient compris le danger qu'elle est la langue pour l'être humain. Et l'imam Taous, qui est un grand imam, il dit, il a une parole célèbre qui dit, ma langue, c'est un lion. Et si je la libère, elle me dévore. Alors, il disait, ma langue, c'est comme un lion. Si je la libère, elle me dévore. Ça veut dire, si je la libère, si je la laisse dire tout ce qui me passe par la tête, alors c'est fini, tout ce que je vais faire, ça va me servir à rien. Je vais être comme celui dans le hadith qui va venir le jour du jugement dernier avec des hasanettes et qui sera obligé de donner les hasanettes aux gens. Et qu'eux, ils vont me donner leurs mauvaises actions. Donc voilà sur les dangers de la langue. D'accord? Alors, avant de passer à la suite du cours qui sont les paroles interdites, qu'est-ce que vous avez retenu? Yallah, qu'est-ce que tu as retenu? T'as retenu quelque chose? Ouais? Là? Qu'il faut pas trop parler. Et qu'est-ce qu'on met encore? Les dangers de la langue. Là? J'ai pas entendu mon frère. Parler avec droiture. Là? C'est tout ?
La parole est en argent, sinon c'est pas vrai.
Masha'Allah, c'est une sage parole. C'est un proverbe arabe en plus.
Un autre proverbe arabe, mais je l'ai en français.
Tadad.
Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence.
Alors tais-toi, Naam, Masha'Allah. Pas de médisance. Masha'Allah. Bon, allez, je continue. Alors maintenant, ce que je vous propose de méditer, d'étudier rapidement, c'est bien sûr les paroles qui sont interdites, pour pouvoir faire la différence entre ce qui rentre dans les paroles de droiture et ce qui ne rentre pas dans les paroles de droiture. Alors, bien évidemment, le mensonge ne fait pas partie des paroles de droiture. Et tout le monde sait que le mensonge, c'est pas une bonne chose et que l'islam ne cautionne pas le mensonge. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est le mensonge. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des choses qui font partie du mensonge et que souvent les gens, ils n'y prêtent pas attention. À savoir, parler sans science sur la religion. Parler sans science sur la religion, c'est grave. Hein? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit « La takfu ma laysa laka bil'ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula » Il a dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance, certes, l'ouïe, la vue, le cœur, tout cela auront des comptes à rendre. Hein? » Donc, il fait partie des dangers de parler des choses dont on n'a pas connaissance. Aussi, par exemple, de donner son avis sur le Coran. « Men yakoula fil Coran abirra'i, fal yatabawahu maq'adahu minanma » Le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui donne son avis sur le Coran, c'est-à-dire il interprète le Coran avec sa raison, comme ça, comme il pense, alors qu'il prépare sa place en enfer. Comme aussi le fait de rapporter les hadiths du prophète sans, au préalable, avoir vérifié s'ils étaient authentiques ou pas. Alors que tout le monde sait que les hadiths, il y en a qui sont faibles et il y en a qui sont faux. D'accord ? Il y a aussi un hadith dans lequel le prophète Allah Azza wa Jalla nous dit « Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib » الكذب هذا حلال وهذا حرام يتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas en proférant le mensonge, ceci est licite et ceci est illicite. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussissent pas. D'accord ? Donc, parler sur la religion et parler en règle générale sur des choses dont on n'a pas connaissance, ça fait partie du mensonge et il faut faire attention à ces choses-là. Aussi, autre chose qui fait partie du mensonge, le fait de répéter tout ce qu'on entend. Hein? Entendre une chose et la répéter, il faut faire attention. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith authentique, « Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a » Le prophète il nous dit dans un hadith authentique, « Il suffit à l'être humain d'être considéré comme un menteur, de répéter tout ce qu'il entend. » D'accord ? Il suffit à l'être humain d'être considéré comme un menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Si tu as entendu quelque chose qu'on appelle nous ici les rumeurs, hein ? Des fois il y a des rumeurs qui tournent sur quelqu'un. Moi, jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un gars, on m'a dit, un frère que je connaissais, je suis revenu le voir, on m'a dit « il est mort ». Je dis « subhanallah, il est mort ». Je suis parti voir, j'ai demandé, et bien, il était vivant. Les gens, ils ont, en fait, quelqu'un, il a confondu, il a dit, ouais, un tel, il est mort, etc., il a fait un accident, hop, ça s'est répandu, tout le monde pensait qu'il était mort, et en fait, en vérité, ben, il n'était pas mort. Voilà le genre de rumeur qui peut courir, et subhanallah, pourquoi ? Parce que les gens, ils ne pratiquent pas la religion correctement. Dans la religion, les informations, avant de les répéter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les vérifier. Hein ? Si à chaque fois tu entends quelque chose, tu répètes, subhanallah, qui te dit que lui, ça se trouve, il a mal compris, il a mal entendu, alors ça se trouve, à lui, on lui a menti. Il faut faire attention. Hein? Et en plus, des fois, on répète des choses sur les gens, ça va les salir. Hein? On est en train de salir des gens qui nous ont rien fait, ça se trouve, qui sont en plus innocents, et en plus, même si c'est la vérité, ça n'amène rien de bien, et les gens, ils sont là, ils répètent. Subhanallah. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, c'est très grave. Et méditez, rappelez-vous de ce hadith dans lequel le prophète dit, il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Et ne soyons pas influencés dans la société dans laquelle nous vivons, où il y a les professionnels du mensonge, les journalistes, eux, c'est leur fond de commerce. Ils prennent les informations, ils les balancent, si c'est pas vrai, c'est pas grave, ça fait vendre. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est l'information qui va faire du bruit. Un tel, hop, il a volé, hop, on en fait un titre gros dans le journal, après en fait c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Il faut pas être influencé par ça. Hein? Nous, il faut qu'on soit influencé par notre religion. Une autre chose aussi, qui fait partie du mensonge, qui est sourdvan. Sourdvan, qu'on pourrait, qui est traduit en français par la mauvaise conjecture, mais c'est un terme qui parle pas, qu'on pourrait traduire par la suspicion. Hein, suspecter quelqu'un. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu invites un frère à manger, il ne vient pas, et tu le suspectes. Tu penses qu'il n'est pas venu parce que il est fâché contre toi, ou etc. Alors que ça se trouve, il n'est pas venu parce que tout simplement, il a oublié, il était malade, il a eu un problème de voiture, ou quoi, ou il peut y avoir des tas de raisons. D'accord? Mais toi, tout de suite, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu une mauvaise pensée. D'accord? Ça, c'est sauf. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, jtanibu kathira min adhan, inna ba'da adhan ifn. » Allah dans le Coran nous dit, « Ô ceux qui croyez, écartez-vous de la suspicion, car une partie de la suspicion est péché. » Et regardez ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, « Iyakum wa adhan, inna adhan akdabu al-hadith. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, dans un hadith authentique, méfiez-vous de la suspicion, car elle est le plus mensonger des discours. Hein? Et Ma'al Asaf, avec beaucoup de regret, on voit que c'est énormément répandu. Hein? Quelqu'un, il arrive en retard à un rendez-vous, ça y est, que des mauvaises pensées. Quelqu'un, il a dit quelque chose d'ambigu, tout de suite les gens vont lui dire non, il a pas, je pense pas qu'il a voulu dire quelque chose de mal. Il dit voir le bien, on tourne la parole dans le mauvais sens. Hein? Et ça, c'est pas ce qui est demandé en islam. En islam, c'est le contraire. Hein? Il est demandé de trouver jusqu'à 70 excuses. Et si tu ne trouves pas d'excuses, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis dans ton fort intérieur, il a certainement une excuse que je ne connais pas. Pour toujours garder les bonnes pensées. Hein? Et le doute, dans la religion musulmane, on ne rend aucun jugement sur le doute. D'accord? On ne rend aucun jugement sur le doute. Donc si toi tu as des mauvaises pensées sur tes frères qui sont basées sur du doute, tu penses que, mais tu n'as pas de preuves concrètes, ces pensées-là que tu as, mon frère, elles sont pas valables dans la religion musulmane. Au contraire, c'est ça qui est demandé par la religion. Et une bonne opinion de tes frères. Il a dit ça, c'est ambigu, peut-être qu'il voulait. Ou alors, va en parler avec lui, pour éclaircir le sujet. Mais ne t'empresse pas d'avoir comme ça. Hein, il y a des gens, ils voient toujours tout en noir. Quelqu'un, il est hop, il arrive en retard, ah oui, hop, etc. C'est mauvais, ces choses-là. C'est pas un comportement islamique. D'accord? Donc, sous-dhan, les mauvaises pensées, la suspicion. Il faut faire attention à ça. Également, parmi les choses qui font partie du mensonge, il y a le fait d'utiliser le mensonge, mais pour faire rigoler les gens. Hein? Par exemple, tu veux faire des blagues, il n'y a pas de mal à utiliser l'humour en islam, mais tu dois rester avec des paroles véridiques, pas utiliser le mensonge. Il y a un hadith authentique dans lequel le prophète il dit وَيْلٌ لِمَنْ حَدِثَ فَكَذِبَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Le prophète, il dit dans un hadith, malheur à celui qui ment pour faire rigoler les gens, malheur à lui, malheur à lui. Alors je dis bien, c'est pas l'humour qui est interdit, mais c'est le fait d'utiliser le mensonge pour faire rire les gens. Hein? Il y a trois fois le prophète dans cette parole-là, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, avant de passer au chapitre suivant, qui peut me dire qu'est-ce qui fait partie du mensonge? La suspicion. Est-ce que tu peux expliquer vite fait qu'est-ce que c'est? Et qu'il ait des mauvaises pensées sur lui. Non. D'ailleurs, il y a une parole très juste d'un ancien qui disait « Délaisse une parole qui, si tu as raison, elle ne t'apportera aucun bien et que si tu as tort, ne t'apportera que du mal et c'est souple. Hein? » Une parole d'un ancien qui disait « Il y a une parole, c'est donc le fait de suspecter comme ça, même si tu as raison. » Par exemple, une personne est venue en retard et tu penses qu'il n'est pas venu parce qu'il est fâché et tout, etc. Même si tu as raison, tu n'as rien gagné. D'accord ? Et si tu commences à vouloir à chaque fois essayer d'évaluer, lui, il n'est pas venu pour tel ou pas, tu prendras des péchés. Donc ce genre de parole, ça t'amène pas du bien, et même quand tu as raison, ça t'amène pas de bien, et ça peut ne t'amener que du mal. Donc c'est vraiment quelque chose à délaisser. Et c'est pareil, c'est une éducation. Hein? Et Shaitan, c'est normal qu'il va venir lui insuffler les mauvaises idées. Parce que Shaitan, il est là pour semer la zizanie entre les gens. Donc quand Shaitan, il vient t'insuffler des mauvaises idées sur la personne, toi, sois intelligent et dis, je n'ai pas de preuve de ça. Donc, je préfère garder une bonne opinion, jusqu'à preuve du contraire. Alors donc les paroles, ce qui fait partie du mensonge, t'as dit la suspicion, quoi d'autre encore? Attends, excuse-moi, il y a... Les rumeurs, ne pas répéter tout ce qu'on entend. Vas-y, c'est ce que tu allais dire? Inch'Allah, c'est bien. Tiens, ben, pour toi et pour lui, un siwak, il y a un siwak devant. Tu vas te le donner, ton copain. Une parole sans science. Voilà, toi aussi tu as gagné un siwak en testant en face de moi. Si tu peux lui donner le vrai écrire. Donc parlez donc. Alors il y a la mauvaise suspicion, hein, les mauvaises pensées. Le fait de parler sans science. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Le fait de répéter tout ce qu'on entend. Naam. Masha'Allah, moi toi tu as gagné un parfum. Voilà. Tiens. Alors, donc c'est bon, on a fait le tour. Hein, c'est tout ce que j'ai dit. Et parler sans science sur la religion, interpréter le Coran comme ça, Naam Fadalahi. Les faux témoignages, Shahadat Zo, Naam. Ça rentre dans le mensonge, tiens, toi t'as gagné un livre. Alors, Inch'Allah, je continue maintenant. Donc, toujours un autre chapitre qui rentre dans le fait, dans les paroles interdites, les paroles qui ne sont pas des paroles droites. Il y a bien sûr les insultes. Hein? Et alors, j'ai pas besoin de faire tout un chapitre sur ce que c'est que les insultes, hein, mais toute parole dégradante. Mais pareil, là aussi, je vais vous ramener un certain nombre de choses qui font partie des insultes que parfois les gens, al-Asaf, ils y prêtent pas attention. Alors, il y a le fait de se moquer. Le fait de se moquer des gens, c'est pareil, c'est insultant. Hein? Voire même les gens, ils se moquent des musulmans. Hein? Parce que peut-être il n'appartient pas, et peut-être sur certaines questions religieuses, il a des avis différents, il a une manière de voir la religion différente, et nous, même s'il a tort, on ne doit pas se moquer. Hein? Personne n'est parfait. Et personne ne peut prétendre, dans la religion, surtout pour celui qui étudie, des fois il s'aperçoit que sur des questions religieuses, il y a différents avis, et depuis l'époque des Sahaba, les gens ils avaient différents avis, donc... Forcément, au jour d'aujourd'hui, ces avis-là, on va les retrouver. Et on va retrouver cette diversité chez les musulmans. Suivant que tu as étudié en Inde, en Arabie Saoudite, dans le Maghreb, en Afrique noire, forcément, tu auras une manière sur certaines questions, voire un madhhab différent. Et cela, c'est pas un mal en islam. Mais le problème, c'est quand les gens, ils se moquent. Et quand les gens, ils veulent imposer leur manière de voir à tout le monde. Hein? Je me rappelle une phrase de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit... من أراد أن يكون قوله هو قول راجح فقد دعا نفسه إلى منزلة الرسول. Il a dit, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, celui qui veut que sa parole soit toujours la parole sur laquelle on revienne en cas de divergence, alors il a mis sa personne au niveau de la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc, ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'être un chercheur de vérité, sans sectarisme, en cherchant les preuves. Et si deux personnes sont en divergence sur une question, mais que les deux, ils ont cherché la vérité, avec les preuves, sans sectarisme aucun, et que leur seule nièce était de rechercher la vérité, même s'ils divergent sur le résultat, mais ils sont sur la même voie, Inch'Allah. Hein? Et je vous rappelle le hadith du prophète, dans lequel il dit que le mujahid, s'il fait un ijtihad, s'il a bon, il a deux récompenses, et s'il fait une erreur, il a une récompense. D'accord ? Donc il faut être nous aussi tolérants. Le problème, c'est de voir des gens, parfois, sur des questions religieuses, qui sont connues chez les fuqaha, qu'il y a des divergences, les gens, ils se moquent. Ou alors même, parfois, ils vont se moquer d'une chose que la personne fait, qui fait partie de la sunna. Hein? Et ça, c'est grave. Et même si quelqu'un est dans l'erreur et qu'il est musulman, on ne doit pas se moquer de lui. Hein? On doit lui parler avec gentillesse et avec douceur et lui dire, mon frère, c'est pas comme ça que tu fais. C'est pas comme ça qu'on fait dans l'islam, c'est comme ça. Et lui parler gentiment. Et se moquer, subhanallah. Et donc à ce propos, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. Allah dans le Coran dit, ô ceux qui croyaient, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple. Il se peut que ceux dont vous vous raillez, ça veut dire ceux dont vous vous moquez, soient meilleurs que vous. Hein? Et également il dit, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous dénigrez pas les uns les autres. Hein? Donc le fait de se moquer, voilà, avec ta bouche, de tes frères, d'autres personnes, c'est pas une bonne chose en islam. Et c'est pas parler avec droiture que de parler comme ça. Et en plus, quand tu te moques, tu devrais te chagriner si les gens ne pratiquent pas la religion correctement, et tu devrais avoir dans ton cœur l'envie de les corriger. Mais si tu te moques, Allah, il sait pas un bon comportement, et tu devrais revoir ton intention, et tu devrais purifier ton cœur de ce genre de sentiment. Hein? Également aussi, le fait de donner les surnoms. Alors, les surnoms qui sont visés ici dans ce verset, « وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ » Il est dit dans le tafsir de ce verset que ce sont les surnoms qui sont dégradants. Lorsque tu donnes un surnom à quelqu'un, que la personne n'accepte pas ce surnom, et que ce surnom, il y a quelque chose de péjoratif, de négatif, quelque chose de pas bon, de rabaissant, de dégradant, d'humiliant, tu commets un péché en cela. Si maintenant tu donnes un surnom, des fois ça nous arrive nous-mêmes à nos enfants de donner un surnom, mais c'est un surnom affectif. Et même la personne, quand il l'appelle comme ça, elle aime bien ce surnom, bien évidemment, ça ne rentre pas dans ce verset. Dans ce verset, « وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ » Ne vous donnez pas des sobriquets injurieux, des surnoms dégradants. Hein. Cela signifie ça, ce qui est visé par ça, c'est les donner un surnom à quelqu'un pour se moquer de lui. Hein. Le gros, par exemple, ou le tordu, ou je ne sais quoi, hein, ou celui qui louche. Hein, ce genre de surnom comme ça, où il y en a à l'appel. Hein, avec regret, je dis ça. Donc ça, c'est pareil, c'est pas des bonnes choses. Et celui qui fait ça, il y en a, c'est des spécialistes. C'est des spécialistes de trouver un surnom à une personne qui va le suivre peut-être pendant toute sa vie. Et il est fier. Il dit, ah, moi, je suis... Ça, dès que je trouve un surnom à quelqu'un, tout le monde le dit. Subhanallah. C'est pas une fierté, ça. Donc le surnom que tu dis, et que tous les gens qui lui disent, et que lui, mesquine, il en souffre, ça se trouve, le jour du jugement dernier, tu vas venir, Wallah, et tu ne seras pas fier de ce que tu as fait. Hein? Donc c'est pareil, c'est des choses, il faut faire attention avec ça. Alors maintenant, un autre... Donc, juste avant de passer à un autre type de parole qui ne fait pas partie des paroles de droiture, donc les insultes. Qu'est-ce qui fait partie des insultes? On apparaît de quoi? Négatif. Parce que un surnom c'est masculin, donc négatif, masculin. Fabien. Faut pas se moquer des gens. Ouais. Et pourquoi? Fabien. Lui, en fait, à chaque fois, lui, il dit ce que tu as envie de dire toi. Donc la prochaine fois, je te demanderai à toi en premier. Voilà, machallah, c'est bien. Les jeunes, machallah, ils sont vifs d'esprit, là. Et les anciens, alors. Et j'ai des cadeaux pour les anciens aussi, là. Hein? Bon, allez, on continue, machallah. Donc maintenant, le chapitre, un autre point que je voudrais vous soumettre, qui fait partie des paroles interdites, c'est le chapitre de la médisance, al-ghaïba. Et on va essayer, machallah, de développer ce point. Donc bien évidemment, la médisance... Ça fait partie des choses qui sont interdites en islam. Et le prophète, dans un hadith authentique, il dit « Atadrouna mal ghaïba ». Il a dit à ses compagnons « Savez-vous ce qu'est al-ghaïba » C'est-à-dire la médisance. Et les compagnons, ils ont dit « Qalou Allah wa Rasuluhu a'lam ». Qala Nabi al-Islam fil ghaïba, donc il leur a expliqué, il leur a dit « Dikruk akhak bima yakra ». Il a dit « C'est évoquer des choses sur ton frère, lorsqu'il n'est pas là, qu'il ne voudrait pas que tu évoques ». D'accord? Et un compagnon va dire, Ya Rasulallah, ra'aita in kana fi akhi ma aqul. Il a dit, et que dis-tu si moi ce que je dis sur mon frère c'est la vérité? D'accord, j'ai dit une chose qu'il n'aimerait pas, que je dis sur lui, mais je n'ai pas menti, ce que j'ai dit c'est vrai. Alors le prophète, alayhi sallam, il va lui répondre, « In kana fi ma taqul, faqad akhtabtah, wa in lam yakun fihi ma taqul, faqad bahattah. » Donc, dans un hadith, le prophète, alayhi sallam, il a dit à ses compagnons, « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Et on voit donc le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait le souci d'enseigner aux gens les choses. Hein, la médisance, qui n'est pas une bonne chose, le prophète, il leur a expliqué ce que c'était. Pourquoi ? Pour, justement, qu'ils soient à la belle, comme on dit, hein, qu'ils soient qu'ils fassent attention à cette chose-là pour ne pas tomber dedans. Donc nous aussi, Inch'Allah, c'est ce qu'on est en train de faire. Le prophète, il est venu voir ses compagnons. Il leur a dit, savez-vous ce qu'est la médisance ? Et les compagnons ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il leur a dit, la médisance, c'est dire des choses sur ton frère qu'il n'aimerait pas que tu dises sur lui. Et donc là, un compagnon, il a dit, mais au prophète, si ce que je dis est la vérité. Et le prophète lui dit, si ce que tu dis est la vérité, alors tu as fait de la médisance. Et si ce que tu dis n'est pas la vérité, alors tu l'as calomnié. La calomnie. La calomnie, c'est-à-dire parler sur quelqu'un, faire tourner une fausse rumeur sur quelqu'un. Par exemple, je dis, un tel, c'est un voleur, il a volé, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Là, je le calomnie. Je parle en son absence, il n'est pas là. Et en plus, je l'accuse de choses qui sont fausses. C'est encore pire que la médisance, la calomnie. Car dans la calomnie, il y a la médisance avec le mensonge. Hein? Mais ici aussi, on a dans ce hadith-là la preuve que même si tu dis la vérité sur ton frère, hein? Par exemple, il dit, ah, ce frère-là, jamais il vient à la mosquée pour le Fajr. Ah, jamais, ça fait un an, jamais il est venu. C'est de la médisance. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est de la médisance. Pourquoi tu l'as dit? Quel est l'intérêt? Pour le dénigrer? C'est de la médisance. Va le conseiller. Hein? Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu ajtanibu kathira min adh-dhann inna ba'dha adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha hal ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarihtum. Et là dans ce verset, Allah il nous dit donc dans ce verset, ô ceux qui croyaient, écartez-vous de la suspicion car une partie de la suspicion est péché. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns sur les autres. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort? Certes, vous détesteriez. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il a donné l'exemple de la médisance en disant que lorsque tu parles sur ton frère qui n'est pas là, c'est comme si tu mangeais la viande de quelqu'un qui était mort. Et vous savez pourquoi il a dit mort, Allah, dans le Coran, sur la personne? Allah, dans le Coran, il a dit la personne morte. Pourquoi ? Parce que la personne qui est morte, elle ne peut pas se défendre. Comme lorsque tu parles de la personne qui est absente, elle ne peut pas se défendre. Hein ? Et c'est pour ça que c'est lâche, la médisance. La médisance, c'est quelque chose de répugnant, de lâche. C'est pas quelque chose de noble et de courageux. Puisque tu parles de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. D'accord ? Et en plus, ça n'amène rien de bien. Hein ? Parler des défauts des gens. Est-ce que nous n'avons pas de défauts nous-mêmes ? Hein ? Alors nous, on aime bien cacher nos défauts. Par contre, ceux des gens, on va par contre les étaler sur la place publique. Subhanallah. Hein? Et regardez l'image que Allah il donne. C'est quelque chose de répugnant. Tu manges la chair de quelqu'un. A'oudou billah. Est-ce que quelqu'un, il aimerait ici manger la chair de quelqu'un? Mort en plus. Hein? Donc c'est pourquoi? C'est pour nous montrer que cette chose-là, c'est quelque chose de sale. C'est pas quelque chose de beau. C'est quelque chose de sale et de répugnant. Et que la personne, elle doit rejeter ça. Et que même si tu es assis avec des gens qui pratiquent la médisance, alors où tu es capable de leur dire, attention mes frères, craignez Allah, ce que vous faites, c'est pas bien, ou alors au minimum, au moment où tu te lèves et tu pars. Tu n'assistes pas à ça. Car même l'écoute de la médisance, elle est interdite. Et si tu écoutes et tu ne dis rien, eh bien tu participes à cela. D'accord? Et la médisance aussi, elle fait partie, c'est un poison. Car l'islam, il fait tout pour réunir les musulmans et les souder entre eux. Et la médisance, ça a l'effet contraire. Hein? Parce que se peut que toi, par exemple, tu aies de l'amour pour un frère, et quelqu'un va venir parler sur lui, va dire ses défauts et tout, etc. Et toi, tu vas le voir d'un autre jour. Donc la médisance, elle ramène rien de bien. Et en plus, lorsque tu fais de la médisance, vu que la personne, elle n'est pas là, elle ne peut pas écouter. Donc, elle ne va pas se corriger. Donc il est où le bien dans la médisance? Il n'y a pas de bien dans la médisance. La médisance, ça divise les gens. Ça fait en sorte que les gens, ils voient le défaut chez les autres. Et ils oublient de les regarder chez eux-mêmes. C'est une perte de temps, c'est lâche, c'est sale. Wallahi, c'est quelque chose à délaisser. Et c'est quelque chose de répandu. Là, je vous rappelle la parole de Ibn Qayyim. Et il parlait justement sur la médisance. Il disait, je suis étonné de voir des gens, parce que peut-être des fois les gens, tu leur parles de la médisance, ils disent c'est les femmes. Wallahi, non, c'est pas que les femmes. C'est les hommes aussi. Et ils vont dire, oui, c'est les gens qui viennent pas à la mosquée. Non, c'est les gens aussi qui viennent à la mosquée. La médisance. Tout le monde, il est concerné. Moi, le premier, je suis concerné. Et on demande à Allah Azzawajal qu'il nous permette de nous préserver de ces mauvaises choses-là. Hein? Donc la médisance, tout le monde, il doit se sentir concerné, et tout le monde, il doit y mettre un frein, et tout le monde, il doit faire un effort. Hein? Parce que les hadiths qu'on cite là, c'est pas juste pour les écouter, et après partir, et comme s'il n'y avait rien. Non, c'est pour retenir et se dire, voilà, moi maintenant, je vais faire un effort sur ça. D'accord? Et les mettre en pratique, bien évidemment. Donc je rappelle la parole de l'imam Ibn Qayyim qui dit, je suis étonné de voir les gens qui ont beaucoup de facilité pour délaisser les grands péchés, tels l'alcool, etc., etc., qui font la prière, qui se viennent le matin à la mosquée, qui font des jeûnes surrogatoires, mais qui éprouvent les plus grandes difficultés pour maîtriser leur langue. Hein? Donc ça veut dire que c'est un piège et qu'il faut faire attention. Et qui, même entre nous, comme il dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit les musulmans, c'est comme deux mains. Cette main, elle lave cette main, et l'autre main, elle lave les mains. Donc nous, entre nous, on doit être comme ça. On doit s'entraider. Si quelqu'un entend de la médisance, il lui dit gentiment, il dit, Arki, t'as vu, là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. On change de sujet. Hein? Et nous aussi, on doit accepter les conseils. Oui, c'est vrai. C'est pas bien. Allez, on essaie de changer. Hein? Alors, avant de passer à un autre point sur les mauvaises paroles, donc sur la médisance. Moi, j'ai demandé aux jeunes, parce qu'il y a que les jeunes qui... Les très jeunes en plus, machallah. Alors, qu'est-ce que c'est que la médisance? Alors, attends, on va demander à lui. Non, la médisance... Alors, attends, la différence entre la médisance et la calomnie, c'est quoi? Fadna.
La médisance, c'est qu'on parle de quelqu'un, on ne dit pas mal.
Oui.
On parle de lui, et c'est vrai, on ne fait pas ça.
Oui, et la calomnie, c'est quoi?
C'est ce qu'on dit, c'est faux.
Masha'Allah. Très bien, Masha'Allah. Tiens. Donc, Masha'Allah, il a bien écouté le petit. La médisance, c'est parler sur quelqu'un, il n'est pas là. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Et si tu parles sur quelqu'un, il n'est pas là, et tu as menti, alors c'est quoi? C'est de la calomnie. Ça te donne. Allahu Akbar, Masha'Allah. Et pourquoi Allah, Azzawajal, dans le Coran, il a dit la personne, elle est morte? Voilà, Masha'Allah. Moi, je crois que je jette des cadeaux, presque. Bon, alors maintenant, une autre parole. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Donc, un autre type de parole qui ne fait pas partie des paroles de droiture et qui est encore pire que celui que je viens de citer, qui est An-Namim. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un Namim? Non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la critique. Ah. Allahu Akbar, Masha'Allah, tiens, akhi, t'as gagné 40 al-Nawawi. Alors, al-Namima, c'est quoi? C'est naql al-kalam bayna al-nas ala jihat al-ifsad. Al-Namima, c'est le fait de colporter des paroles entre les gens, mais pourquoi? Pour les séparer, pour faire en sorte qu'il y ait la haine entre eux. D'accord? Je vous donne un exemple. Imaginez, moi, j'ai un ami à moi, il s'appelle Hassan. Et mon ami Hassan, il rencontre un frère qui s'appelle Mohamed, et je vois que Hassan, maintenant, il aime beaucoup Mohamed. Et moi, je deviens jaloux. Alors moi, je vais aller voir Mohamed, et je vais dire, tu sais ce qu'il a dit Hassan sur toi, pour que Hassan, il s'écarte de Mohamed, et comme ça, je garde mon copain auprès de moi, comme ça. Hein? Et je vais lui dire des paroles mauvaises. Ah, il a dit sur toi que tu récitais mal le Coran, ou des choses comme ça, ou je sais pas. Hein? Et comme ça, entre eux, il va y avoir la haine. Hein, donc, namima, c'est ça. Namima, c'est dire des paroles, rapporter des paroles d'une personne à une autre, mais dans le but de quoi? Dans le but de les séparer. Et dans le but de mettre la haine entre eux. Hein? Et donc, sur ça, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, « La yadkhulul jannatan namam. » Et regardez bien, il n'a pas dit... Le prophète, il a dit dans ce hadith, celui qui fait de Namima, il n'entrera pas au paradis. Donc il n'a pas dit dans ce hadith il entrera en enfer. Il a dit, il n'entrera pas au paradis. C'est encore plus grave. Hein? Et il y a des paroles, beaucoup, des savants qui disent que, qui mettent une namima avec la sorcellerie. Hein, ils ont mis dans leur livre, un namima, dans le chapitre, il parle de namima, ils le mettent dans le chapitre de la sorcellerie. Est-ce que vous savez pourquoi?
Parce que moi, il y a Chir derrière, là, il est... Vas-y, Chir.
C'est comme le vaudou, ouais.
Non, attends, regarde, je répète ma question. Donc on a vu ce que c'était que la namima. Je vous ai dit que certains savants, quand ils parlent de namima, ils le mettent dans le même chapitre que la sorcellerie. Il y a une raison, en fait.
Et la raison, c'est quoi? Je vais vous dire. C'est qu'Allah, dans le Coran, il dit, lorsqu'il parle de la sorcellerie, il dit « Ma yufarriqun bihi bayn al-mar'i wa zawji ».
Hein? Lorsqu'il a parlé de la sorcellerie dans Surat al-Baqarah, le verset 102, qui est un long verset où il parle de Sulaiman, et il parle de la sorcellerie, il dit que les anges, ils apprennent quoi? Ils apprennent ce qui sépare l'homme de sa femme. Donc la sorcellerie, elle est venue quoi? Elle est venue là pour séparer les gens qui s'aiment. Et l'anima, c'est ce que ça fait. C'est pour ça que... Et certains savants, ils ont dit que celui qui fait l'anima, il fait en une heure ce que le sorcier fait en un an. C'est une parole qui est connue, ça, chez les savants. Ils disent que celui qui fait namima, hein? Non, ça ne veut pas dire qu'une namima, c'est de la sorcellerie, mais ça veut dire que c'est aussi grave. D'accord? Dans son résultat. Hein, les savants, ils ont dit, celui qui fait namima, des fois, il fait en une heure ce que le sorcier fait en un an. Hein? Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans leur livre. Donc, alors... Avant de passer à la suite, donc Namima, qu'est-ce que c'est? Les chouyours là, c'est quoi? Attends, excusez-moi, Fadalachi. Semer une discorde entre les gens. Voilà, colporter des paroles pour semer une discorde entre les gens. Voilà, Masha'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur celui qui fait ça? Il n'entrera pas au paradis. Hein? Donc, c'est quelque chose de grave, mes frères. Hein? Et si quelqu'un... Il est tenté de faire ça, qu'il se rappelle dans sa tête ce qu'il va faire, que c'est quelque chose de grave. Hein? Et que l'islam, encore une fois ici, on voit à travers l'interdiction de la médisance, des insultes, de se moquer, de faire le naïma, que l'islam, il veut quoi? Il veut que les gens y soient ensemble, dans l'amour, la fraternité, l'entraide. Donc si toi, ce que tu cherches, c'est le contraire, alors forcément, tu n'es pas dans la voie de l'islam, mon frère. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Donc maintenant, à travers tout ce que j'ai dit, s'il y a un hadith qu'il faudrait retenir, c'est celui que je vais citer maintenant. Car dans ce hadith-là, qui est simple, qui est court, tout est résumé. Hein? C'est un hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw yasmut. » Et ça rejoint les proverbes d'ailleurs que vous avez cités. Hein? Dans ce hadith-là, le prophète alayhi wa sallam, il dit que celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors donc, ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va parler, avant de parler, elle doit évaluer. Et dire, voilà ce que je vais dire. Déjà, pourquoi je le dis? Est-ce que je cherche un bien ou je cherche un mal? Est-ce que je cherche l'agrément d'Allah ou je cherche autre chose? Est-ce que la parole que je vais dire, c'est une parole qui est autorisée ou qui n'est pas autorisée? Hein? Est-ce que cette parole-là, elle va unir les gens ou elle va les désunir? Est-ce que cette parole-là, elle est basée sur une science claire, dont j'ai une preuve claire et nette, ou c'est juste comme ça, si j'ai entendu comme ça, je ne sais pas trop? Est-ce que cette parole-là que je vais dire, elle va unir les gens, elle va les désunir? Est-ce qu'elle va construire ou elle va détruire? Hein? Donc la personne, avant de parler, elle doit évaluer et se dire, voilà ce que je vais dire, pourquoi je le dis et quel résultat ça va avoir? Est-ce que ça va apporter quelque chose aux gens ou ça ne va rien apporter? Est-ce que c'est utile ou inutile? Voilà autant de questions que la personne doit se poser avant de parler. Jusqu'à ce que l'imam Nawawi, il dit, si lorsque tu vas parler, tu estimes que le bien que ça va amener, eh ben il est égal au mal que ça va amener, alors la sunna c'est quoi? C'est de se taire. Car rien ne vaut la paix. Hein? Donc regardez, mashallah, subhanallah, rabbil alim, juste dans ce hadith-là, « Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw yasmut. » Si on s'applique ce hadith-là, on va se préserver de tout ce que j'ai dit avant. C'est simple la religion musulmane. Ça demande quoi? Ça demande de la sincérité et ça demande des gens qui dans leur cœur ils s'accrochent et qui se disent voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il m'a dit que si je veux parler, c'est pour dire du bien, sinon je me tais. Et bien juste si une personne, c'est pas un savant, mais il a compris ce hadith et le met en pratique, et bien wallah, il est dans un grand bien. Il est dans un grand bien, il est dans un bien immense. D'accord? Et n'oubliez pas que les bonnes paroles, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, al kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole, c'est une aumône. Hein? Une parole qui unit les gens, qui est une parole basée sur la science, qui est une parole qui réconforte les cœurs, c'est une sadaqa. Hein? Ce que tu vas sortir de ta bouche, à chaque fois que tu vas sortir, c'est des hasanats. Alors il faut essayer d'être comme ça. Hein? De pareil, pour ceux qui ont des enfants, lorsque vous vous énervez, je reviens à la question que tu m'as posée tout à l'heure, lorsque tu es énervé, eh ben essaie de dire Subhanallah, Masha'Allah, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Non mais, là ce que je suis en train de parler, c'est de l'éducation qu'il faut avoir avec sa langue. De s'habituer, et comme ça a été dit à la khutba aujourd'hui, ça commence des petits. Habituez vos enfants à sortir des bonnes paroles. Et si vous voulez que vos enfants ils disent des bonnes paroles, alors vous, dites des bonnes paroles. Hein? Lorsque ton enfant il fait quelque chose de pas bien, au lieu de l'insulter ou de dire une parole catastrophique, il dit Allah hidik. Allah hidik ou le dit. Hein? S'il te dit, il dit quelque chose qui n'est pas bien, il dit Subhanallah. Hein? Astaghfirullah. Allahu Akbar. Hein, vous connaissez le hadith dans lequel le prophète il dit le fait de dire Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, ahabba ilayya mimma tala alayhi shams. Il a dit le prophète Hassan de dire Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, mais préférable ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire que le soleil se lève sur toute la terre, il a dit ces quatre paroles-là, elles sont préférables sur tout ce qu'il y a dans cette dunya. Hein? Et pareil aussi, kalimatani, habibatana inda rahman, taqilatana fil mizan, khafifatana. Deux paroles qui sont aimées auprès du miséricordieux, qui sont lourdes dans la balance des bonnes actions et qui sont légères dans la langue. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Hein? Et d'ailleurs, subhanallah wa bihamdi, c'est donc la purification d'Allah en lui attribuant tous les attributs de la perfection. Et de dire subhanallah al-azim, c'est de dire que rien ne t'est plus cher qu'Allah, et lorsque tu as fait ça, alors il n'y a pas de parole qui est meilleure. Lorsque tu as donné à Allah tu l'as purifié tous les défauts en lui donnant tous les attributs de la perfection, et que tu as dit que c'était la chose qui était préférée pour toi dans tout cet univers, alors il n'y a pas de parole qui est meilleure que celle-là. Hein? Donc, habituez-vous à dire des bonnes paroles. Faites attention à vos langues. C'est quelque chose de grave, comme on l'a vu. Hein? Et ne vous sentez pas à l'abri, tout le monde est concerné. C'est un combat de tous les instants. C'est une éducation. Et c'est une éducation qui vient du cœur. Hein? Donc c'est quelque chose qu'il faut. Chacun il est concerné, chacun doit faire des efforts. J'ai répondu à ta question? Oui. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله بإحسانك.